gueule.
On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland?
h 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18h, nous sommes le jeudi 3 décembre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U. La belle histoire des merveilles de la Terre, un beau titre pour un beau livre. Dans cet ouvrage, publié aux éditions de Book, Gilles Chazot, professeur à LUBO, au laboratoire de géosciences de l'IUEM, nous invite à découvrir l'histoire de notre planète à travers ses spécificités naturelles les plus exceptionnelles. De sa naissance jusqu'à nos jours, ce livre est l'occasion de s'émerveiller sur les phénomènes naturels extrêmes qui ont façonné notre belle planète. Nous l'avons contacté cette semaine pour discuter de ce beau livre. Gilles Chazot, bonjour.
Bonjour.
La belle histoire des merveilles de la Terre, c'est le livre que vous venez de sortir aux éditions de Book.
C'est de Book, on
de
dit.
De Book,
oui.
Voilà, pardon. Oui. De quel type d'ouvrage il s'agit?
Alors, c'est ce que les éditeurs appellent un beau livre, c'est-à-dire un livre constitué en grande partie de belles images. Mm-hmm. Et c'est un petit peu l'état d'esprit de ce livre. C'est avant tout de montrer, à regarder, à s'émerveiller devant des beautés naturelles, des paysages géologiques. Et à partir de ces belles images, d'en donner une explication géologique accessible à tous, en fait.
Parce que c'est aussi un livre scientifique, en fait.
Alors, scientifique, c'est un livre de vulgarisation scientifique, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études de géologie pour le comprendre. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que derrière un paysage, il y a une histoire géologique qui peut être très longue, qui peut être vieille de plusieurs millions d'années, parfois même de plusieurs centaines de millions d'années. Une histoire géologique qui a pu se produire en plusieurs étapes, avec des grandes périodes où il ne s'est rien passé entre ces différentes étapes. Donc c'est vraiment une lecture de paysages à travers la géologie. Le tout à partir d'un site qui est spectaculaire et donc à partir d'une très belle image.
Parce que je vais peut-être le rappeler tout de suite, vous êtes géologue et professeur à LUBO, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Je suis géologue et je travaille principalement sur les régions volcaniques, sur la composition chimique des roches volcaniques et le lien entre l'origine des magmas et les éruptions à la surface, oui. Mais dans ce livre, il y a de tout, hein. Il n'y a pas seulement du volcanisme. Il y en a un petit peu, mais pas énormément. Mais ça traite vraiment de tous les types de paysages. Il y a des grottes, il y a des cours d'eau, il y a des montagnes, il y a des glaciers, il y a beaucoup de choses différentes. Le fil conducteur étant toujours la beauté des paysages et, comme l'indique le nom du livre, les endroits merveilleux de notre planète.
Et les images que vous montrez dedans, c'est des photos que vous avez prises ou c'est des...
Alors non, certaines le sont, il y en a quelques-unes qui sont de moi. Malheureusement, je n'ai pas pu aller visiter tous ces endroits. Hein. Il y a 100, je ne sais plus combien, 150 fiches ou je ne sais pas combien.
170 donc, d'après mes notes.
oui, il y en a beaucoup, plus les fiches Zoom. Donc ce sont des images qui sont achetées sur des sites auprès de photographes, souvent des photographes professionnels. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des images de très haute qualité, de très haute définition, vraiment pour le plaisir des yeux, pour avoir envie de s'émerveiller devant ces paysages. Ça, c'est vraiment la base du choix des sites, c'est avoir une très belle image spectaculaire et agréable à regarder. Une image qui donne envie, d'une part, de voyager, et puis d'autre part, d'en savoir un petit peu plus sur cet endroit merveilleux de notre planète.
Et comment vous procédez, vous, en tant que scientifique, pour justement comprendre ce qui se passe derrière cette image?
Alors, comme c'est les images représentent des thématiques très variées de la géologie, hein, il y a aussi de la paléontologie d'ailleurs, il y a aussi des images très spectaculaires de fossiles ou de choses comme ça. Donc ça couvre un grand nombre de domaines de la géologie. Donc pour chaque fiche, alors il y en a certaines pour lesquelles c'est des sites que je connaissais et que j'avais des choses à raconter sans difficulté. Et pour d'autres, eh bien, je suis allé lire des articles scientifiques sur des gens qui avaient travaillé sur ces sites-là, des gens qui avaient reconstitué l'histoire d'une région, qui avaient travaillé sur la datation des roches, sur l'origine de certaines roches. Et donc, j'ai fait des recherches dans les publications scientifiques pour arriver à reconstruire une histoire géologique des endroits que j'avais choisis. Alors, ce qu'on pourrait préciser, c'est que le livre est aussi les différentes fiches, les différents lieux qui sont décrits, sont disposés de manière chronologique. Et en fait, ça permet de reconstituer un peu une histoire de la Terre. C'est-à-dire qu'on part depuis des objets très anciens. On part depuis des météorites qui ont 4,5 milliards d'années, depuis des roches très anciennes sur Terre qui ont un peu plus de 4 milliards d'années. Et puis on parcourt de cette façon-là toute l'histoire de la Terre, en fait, jusqu'à des paysages très récents et des événements géologiques très récents qui sont contemporains de ce que l'on vit aujourd'hui sur Terre. Donc il y a un déroulement chronologique dans le livre qui permet de balayer toute l'histoire de la Terre jusqu'à la fonte de glaciers très récents ou des régions volcaniques récentes de notre planète.
Et justement, sur ce qui se passe récemment et actuellement, est-ce qu'on voit une évolution ? Enfin, vous la commentez dans le livre sur l'impact que nous, on a sur la planète ?
Oui, bien sûr. Ce livre, en fait, il est aussi... l'objectif, c'est de s'émerveiller devant les beautés de la planète avec en arrière-plan l'idée que cette planète, il faut la préserver, il faut la protéger et qu'on ne la protégera bien que si on la connaît bien et si on l'aime bien. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ben voilà, regardez comme la Terre est belle, comme il y a des endroits extraordinaires. Et donc, ça vaut le coup de faire l'effort de la protéger. Donc, il y a pas mal de sites sur la fin qui nous montrent, par exemple, le recul des glaciers, de certains glaciers, notamment au Groenland ou en Amérique du Sud, qui nous montrent l'évolution du delta du Mississippi, par exemple, qui se modifie en fonction des changements climatiques et de l'impact de l'homme sur le cours des fleuves et ainsi de suite. Donc il y a une prise de conscience un petit peu de ces aspects-là. Et puis il y a aussi dans le livre ce qu'on appelle des fiches zoom, c'est-à-dire des fiches qui ne rentrent pas dans la chronologie de l'histoire de la Terre, mais qui sont des thèmes un petit peu orthogonaux. Et j'ai mis notamment dans ces fiches zoom plusieurs peintures de peintres du 18e, 19e siècle qui ont représenté la nature et qui ont, à leur manière, participé à la prise de conscience de la beauté de la nature et du besoin de la protéger. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas seulement depuis quelques années ou quelques décennies qu'on s'est dit qu'il fallait protéger la nature. Il y en a qui y ont pensé bien avant nous. Et notamment des peintres, des photographes. Il y a aussi une fiche sur un photographe américain très connu qui s'appelle Ansel Adams et qui a fait beaucoup de photos au 20e siècle, au 19e et 20e siècle, principalement 20e siècle, pardon, et qui a fait beaucoup de photos en noir et blanc aux États-Unis qui ont contribué à la découverte de la nature et à la prise de conscience de la beauté de la nature. Et ça, je pense que c'est important, à travers un livre comme ça, de faire passer ce message. Il y a aussi des fiches zoom sur des personnages importants tels que Alexander Humboldt, qui est un des premiers à avoir un petit peu parlé d'écologie, même s'il n'a pas utilisé ce nom. à s'être émerveillé devant les beautés de la planète, tout en essayant de mieux comprendre la planète, les interactions entre les différents composants de notre planète, et qui est un des premiers à pris conscience de l'impact de l'homme sur la planète. Et ça, c'était au 19e siècle, c'était dans les années 1830 jusqu'en 1860.
Vous disiez justement, vous citiez d'autres scientifiques ou artistes que vous avez cités dans le livre. Comment vous avez fait pour écrire ce livre? Parce que c'est quand même, j'imagine qu'il faut décomplexifier ce que vous connaissez pour le rendre accessible. Vous travaillez avec d'autres personnes pour faire ça?
Non, j'ai fait ça tout seul. C'est l'exercice parfois un peu difficile de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire arriver à décrire les choses de façon simple. Alors il y a un glossaire dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de termes, disons géologiques qui sont expliqués. Il y a des renvois vers ce glossaire avec des termes géologiques qui sont expliqués. Mais l'idée, c'est que ce livre il puisse être lu par n'importe qui n'a pas fait d'études de géologie, qui ne connaît rien en géologie, mais qui est curieux de l'évolution des paysages, de l'évolution de la Terre et du fonctionnement de la Terre. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre raconter des choses qui sont justes, parce que ça, c'est important, hein, c'est pas... Sous prétexte de vulgarisation, il ne faut pas sursimplifier les choses pour les rendre fausses. Donc il faut raconter des choses justes, mais avec des mots et des concepts suffisamment clairs pour qu'ils puissent être perçus par tous. C'est toute la difficulté et le charme de la vulgarisation scientifique.
Parce que vous avez déjà écrit un livre, co-écrit je crois avec Henri Gaudru, « La belle histoire des volcans ».
Oui, absolument. Alors c'est dans la même collection, hein, c'est-à-dire dans cette collection La Belle Histoire de chez The Book. Et donc il y a 2 ans, nous avons fait paraître La Belle Histoire des volcans, qui est basée sur le même principe, c'est-à-dire une chronologie du volcanisme sur la planète Terre depuis les débuts, depuis plus de 4 milliards d'années jusqu'aux éruptions les plus récentes, puisque à l'époque où on a écrit ce livre, on parlait de l'éruption, la dernière éruption d'Hawaï, sur l'île d'Hawaï, du Kilauea, qui était encore en cours au moment où on a écrit le livre. Donc là encore, c'est pareil, c'est basé sur de très belles photos de volcans. L'idée, c'est de s'émerveiller sur ces phénomènes, devant ces phénomènes et ces paysages volcaniques, et en même temps de comprendre les phénomènes volcaniques qu'il y a derrière ces paysages.
Et vous, en tant que professeur et géologue, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir vers ce genre d'écriture de livre, de rendre accessible votre savoir à un public plus large ?
Ouais, ça fait longtemps que je fais de la vulgarisation scientifique. J'ai fait pas mal d'émissions radio. Avant de venir en Bretagne, j'étais à Clermont-Ferrand. Et j'ai fait pas mal d'émissions radio sur France Bleu, Pays d'Auvergne. J'ai fait une chronique hebdomadaire pendant une année sur la vulgarisation des sciences, justement. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est l'étape ultime de l'enseignement, finalement. Quand on fait de la recherche, on est très pointu dans un domaine. Quand on fait de l'enseignement, surtout quand on fait de l'enseignement en première, deuxième, troisième année de licence, on essaie de simplifier un petit peu ces aspects pointus de la recherche pour former les étudiants et pour les amener petit à petit à comprendre les aspects difficiles de notre science. Et la vulgarisation, c'est vraiment l'étape encore ultime, c'est-à-dire d'arriver à expliquer au plus grand nombre. Et je trouve ça tout à fait intéressant, c'est aussi parce qu'il y a un public qui est intéressé, qui est demandeur. Les gens ont envie de savoir, ils ont envie de connaître, ils s'intéressent à ces choses-là. C'est bien sûr le cas des volcans, parce que les volcans, c'est quelque chose qui est très spectaculaire et qui intéresse beaucoup les gens. Mais les paysages, la Terre en général intéresse les gens, ils ont envie d'en savoir plus. Et je trouve ça très intéressant et très formateur de faire ce genre d'exercice. Moi, j'ai moi-même énormément appris en écrivant ce livre, parce que j'ai beaucoup lu d'articles scientifiques pour arriver à rentrer dans le détail des histoires géologiques. Et donc, je trouve ça très enrichissant de transmettre au plus grand nombre. Et puis, de les inciter à s'émerveiller devant la planète, ça reste quand même le fil conducteur de ce livre.
Et vous avez d'autres projets de livres dans la même veine ?
Pour le moment, non, parce que ça prend quand même beaucoup de temps.
Oui.
C'est quelque chose qui se fait en plus de notre travail d'enseignant-chercheur. Hein. Être enseignant-chercheur, ça prend beaucoup d'heures parce que voilà, si on veut faire un enseignement à peu près correct, si on veut être au point en recherche, on nous demande beaucoup en administration aussi. Et écrire un tel livre, bah, ça se fait encore en plus. Donc c'est un investissement assez conséquent quand même au niveau temps. Donc pour le moment là, non, j'ai quelques autres projets en tête, mais qui sont pas assez concrets pour pouvoir en parler, les mettre sur la table pour le moment.
D'accord.
Parce que la belle histoire des volcans est sortie en 2018. Juste avant, en 2017, j'avais sorti un ouvrage à destination des étudiants qui s'appelait Volcanologie. Donc 2017, 2018, 2020, ça commence à faire pas mal.
Ça fait beaucoup, ouais.
Voilà, donc il faut savoir faire des pauses un petit peu.
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les nouvelles problématiques climatiques, en ce moment, les gens sont plus ouverts sur ce genre de livres de vulgarisation ? Ils ont envie de plus connaître ce qui se passe derrière les photos ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une sensibilisation à la planète qui est importante depuis quelques années. À travers le changement climatique dont on parle beaucoup, à travers la pollution dont on parle aussi beaucoup, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients du fait qu'ils habitent sur une planète qu'il est nécessaire de protéger, de préserver et d'apprendre à utiliser parce que quoi qu'on en dise, si on veut continuer à vivre, il faut qu'on utilise les ressources de la planète. Mais il faut apprendre à les utiliser de façon raisonnée. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience importante sur ces aspects-là. Et du coup, ce qui va avec cette prise de conscience, c'est aussi ce besoin et cette envie de connaître et de comprendre. Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est que on aime bien et on ne protège bien que ce que l'on connaît et ce que l'on comprend. Donc on a l'impression que les gens sont intéressés par plus d'informations finalement sur le fonctionnement de la planète. Alors pas forcément la structure profonde de la Terre, mais tout ce qui se passe à la surface, les glaciers, les climats, les séismes, les éruptions volcaniques, tous ces aspects-là, les courants marins, l'évolution des océans, c'est des thématiques qui touchent les gens et qui les intéressent de plus en plus. Donc je pense qu'un ouvrage comme celui-là, il va bien dans cette veine de découverte de la planète et puis de réapprentissage à l'émerveillement devant les beautés de la planète. Je crois que c'est fondamental si on veut pouvoir protéger cette planète de façon correcte pour l'avenir.
Oui, puis c'est une manière de comprendre jusqu'où la Terre est arrivée là et qu'est-ce que c'est nous, notre impact à nous dessus en fait.
Oui, c'est ça, de montrer aussi que ben voilà que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une évolution incroyablement longue, parce que ça, c'est une des difficultés de la géologie, hein, c'est que les durées sont gigantesques, sont même difficilement perceptibles par nos cerveaux humains, et la Terre sur laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat de cette évolution géologique sur des centaines et des centaines de millions d'années, avec des choses qui ont mis extrêmement longtemps à s'installer, à se former, et pour lesquelles, pour certaines, on est en train de détruire à une vitesse extrêmement rapide. Donc ça aussi, c'est une prise de conscience que la Terre n'existe pas que depuis que l'homme est dessus, quoi. Qu'il y a une histoire beaucoup plus ancienne, une histoire géologique et puis une histoire de la vie aussi, parce que la vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années, peut-être même un peu plus de 4 milliards d'années, et que finalement l'histoire de l'homme là-dessus n'est qu'une infime partie de cette longue histoire géologique et biologique.
Donc il est bien temps de se rendre compte de toutes les merveilles de tout ça.
Voilà, tout à fait. Il ne faut jamais cesser de s'émerveiller. Mm-hmm. D'ailleurs, je cite en conclusion une citation d'un écrivain anglais du début du XXe siècle qui disait « Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. » Et je crois qu'il est temps de redonner aux gens l'envie de s'émerveiller devant la planète. Ouais. Et c'est vraiment le but ultime de ce livre.
Super, ben j'espère qu'en tout cas, ce sera des beaux cadeaux de Noël sous le sapin.
Absolument, c'est la période. Les librairies sont ouvertes à nouveau. Donc, il ne faut pas hésiter à offrir et à s'offrir des livres, et surtout des beaux livres comme ça. Mmh. Ça permet de voyager facilement en cette fin d'année 2020 où on n'a pas pu beaucoup bouger. Ça permet de s'offrir des voyages à la maison. Mmh. Et c'est le bienvenu pendant cette période.
Eh ben, merci beaucoup, Gilles Chazot.
Merci à vous.
C'était Gilles Chazot, l'auteur du livre « La belle histoire des merveilles de la Terre » paru aux éditions de Book. On se retrouve après un titre de Cat Steven avec un reportage réalisé par Yann lors de la manifestation en réaction à la loi sécurité globale samedi dernier, place de la Liberté à Brest.
Building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Do.
Where Do the Children Play de l'album Tiefer Tillerman de Cat Stevens en 1970. Vous êtes sur Radio U, vous écoutez, c'est vous qui le dites. Nous vous proposons de revenir sur la manifestation de samedi dernier en opposition à la loi sécurité globale. C'était Place de la Liberté à Brest et ce reportage a été réalisé par Yann.
Il s'agit d'hommes et de femmes, et pas n'importe lesquels. D'hommes et de femmes venus trouver refuge dans notre pays après avoir fui la misère ou la violence. Le pire étant peut-être qu'ils ont ensuite dormi dehors.
C'est de l'effroi que suscite l'évacuation Manu Militari ordonnée par le préfet Didier Lallemand qui a eu lieu en pleine trêve hivernale dans l'obscurité et le froid au pied de la statue de la République. Quel terrible symbole!
Autre lieu, autre violence. Samedi dernier, des policiers ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance en train de rouer de coups Michel Zecler, un homme noir, un producteur de musique, à l'entrée de son studio d'enregistrement. Les images de l'agression diffusées par un média alternatif sont tout simplement insupportables. Le motif avancé, le non-port de masque, la durée de l'agression, son extrême violence, les propos racistes proférés par les policiers donnent la nausée.
Alors, l'initiative, elle a été prise dès la connaissance en fait du texte de loi qui a été publié en début de semaine. Texte de loi qui nous a semblé extrêmement liberticide et vraiment avec une atteinte à nos droits et puis une atteinte aussi quand même à la démocratie. La Ligue des droits de l'homme s'est très vite positionnée, même au niveau national, sur le rôle qu'on avait à défendre là-dedans. Ce sont les libertés, c'est nos missions. Défendre les libertés, c'est les missions de la Ligue des droits de l'homme. Et très rapidement, tant au niveau national que dans toutes les sections locales, il a été décidé de faire des appels à se rassembler pour dénoncer et alerter. Surtout que la loi a été mise en application, pour ainsi dire, le lendemain, le mercredi, lors des premières manifestations, alors qu'elle n'avait pas encore été votée, puisqu'elle a été votée seulement hier. Donc suite à ça, on a fait un appel à manifester. Et en fait, extrêmement rapidement, l'ensemble des associations, des mouvements politiques, enfin un grand nombre, des syndicats nous ont rejoints. Ce qui nous a agréablement surpris, parce que mardi, quand on a lancé cet appel-là, on pensait que ça allait être assez... ça allait pas prendre en fait autant auprès des autres. Donc on est assez satisfait de voir que finalement on a été relayé, notre appel a été relayé par beaucoup.
En pleine période de confinement, le gouvernement a donc délibérément maintenu les débats parlementaires autour de sa loi dite de sécurité globale. Ce texte prévoit d'étendre aux polices municipales et sous le seul contrôle des maires des compétences de la police nationale sur des missions de police judiciaire. Ces policiers municipaux pourront procéder à des contrôles d'identité et à des saisies au risque d'amplifier encore les abus et les bavures.
Ce texte organise une privatisation de la police en contradiction flagrante avec le droit constitutionnel, en déléguant à des sociétés de sécurité privées des pouvoirs réservés à la police judiciaire. Ce texte prévoit la possibilité pour les forces de l'ordre de porter leurs armes hors service. On vous laisse préjuger des conséquences d'un dérapage toujours possible.
Ce texte prévoit d'autoriser l'État à utiliser des drones et des caméras visant explicitement le contrôle des manifestants. Avec l'analyse automatisée des images, cela permettra la reconnaissance faciale des personnes. Le recours à de tels dispositifs va entraîner une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ne laissant plus aucune place au respect du droit à la vie privée et ne pouvant avoir qu'un effet coercitif sur la liberté d'expression et de manifestation dans notre pays. Cette loi n'est ni plus ni moins que la création d'un arsenal ultra-sécuritaire dont les quartiers populaires ont été le sinistre laboratoire et qui n'a pour but que d'accroître la répression contre toute contestation sociale ou écologiste à venir. C'est l'ensemble de cette loi qu'il faut retirer.
Ici parce que je pense que c'est indispensable pour l'avenir de nos enfants. J'ai 4 enfants qui ont 18 ans, 20 ans et jusqu'à 25 ans. Et je veux que mes enfants vivent dans un monde de liberté et de libre expression. Je vois des gens qui expriment sur Internet et les réseaux sociaux, YouTube, en particulier sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont des médias indépendants qui sont censurés. Je trouve ça inadmissible. On se rend compte qu'il n'y a plus de liberté. La liberté n'est que illusoire. Là, on essaye de nous mettre des lois petit à petit, restrictives, sur notre liberté de penser, de réfléchir. Demain, ça va être quoi ? Demain, on va avoir l'identification des individus. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans liberté. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans liberté. Moi je me sens pas en sécurité là actuellement quoi. Avec ce qui se passe, j'ai l'impression d'être qu'on me met en prison dans mon pays. J'ai l'impression d'être en prison rien qu'avec ce type d'attestation. J'ai l'impression d'être sous liberté surveillée. Je n'aime pas du tout ça, je ne suis pas d'accord avec ça et je me battrai toujours pour ça. Je peux vous dire, c'est l'une des premières fois que je viens manifester, parce que je vois que c'est en train de dériver. Parce que je ne veux pas que mes enfants, ma fille qui a 18 ans, vive toujours avec un masque, qu'elle n'a pas le droit de parler, qu'elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle veut. Non, j'ai pas envie.
32 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 325 citoyens et citoyennes blessés à la tête, des blessés et des morts aussi, comme Rémi Fraisse, à Sivens, comme Adama Traoré, à Beaumont-sur-Oise, comme Steve, à Nantes, comme Zinedine Redouane, à Marseille. La liberté d'informer, la liberté d'être informé, la liberté de manifester. Toutes nos libertés sont violentées dans notre pays. Un article qui punit l'occupation des campus universitaires de peine allant, tenez-vous bien, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le gouvernement bafoue ostensiblement les libertés syndicales et le principe même de la liberté d'expression sur les campus.
Nous étions 1500 samedi dernier à Brest. Nous sommes encore plus nombreux aujourd'hui pour demander le retrait de la loi de sécurité globale.
Notre émission arrive à sa fin. Merci à notre invité Gilles Chazot, professeur à l'UBO au laboratoire de géosciences de l'IUEM et auteur du livre récemment paru aux éditions de Book, La belle histoire des merveilles de la Terre. Un beau livre à offrir ou à s'offrir d'ailleurs pour prendre le temps de s'émerveiller devant les phénomènes naturels qui ont façonné notre planète de ses origines à nos jours. On se retrouve lundi prochain à 18h. Bonne soirée sur Radio U.